Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vient à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre récré hors format qui nous permet de mettre en avant une sortie qui nous avait échappé, ou encore mieux, une ressortie, en l'occurrence celle d'un vrai gros morceau de l'histoire du cinéma, puisqu'on va causer de la réédition en Blu-ray de Hit de Michael Mann. Et pour s'attaquer à un tel morceau, il nous fallait rien de moins qu'un héros, un vrai. J'ai nommé Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et en plus, c'est un Extra Ball en public pour une fois. Bonjour à tous, c'est Nos Ciné, Extra Ball spécial Hit, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ouais, parce que d'habitude, les extra balles, on les fait juste entre nous, en petit comité. Mais là, bon, pour une fois, c'est plutôt cool. Si on part du postulat, Stéphane, très étrange, j'en conviens que parmi ceux qui nous écoutent, certains n'ont jamais vu ni même entendu parler de Hit. Comment est-ce qu'on leur résumerait la chose?
Ouais, c'est une borne, hein. Ça n'a pas toujours été ça. C'est une borne dans l'histoire du cinéma de policier. C'est une fresque policière monstrueuse. C'est un film de 3 heures. Aujourd'hui, on a. Alors. Conceptuellement parlant, on a l'habitude de voir ce genre de truc, peut-être éventuellement dans une série télé de qualité, très bien écrite, très, très travaillée, très développée. Ce qui n'était pas
le cas à l'époque.
Le cas à l'époque. Non. Même si, en l'occurrence, Hit, à la base, vient d'un téléfilm fait par Michael Mann qui s'appelait L.A. Takedown, à la fin des années 80, qui était le brouillon de Hit, avec les deux personnages qui se cherchent et le braqueur, le flic qui se cherche et qui finissent par se trouver. La scène de braquage faite comme un téléfilm en fait, donc bon, forcément
pas avec la même ampleur que dans Hit,
clairement pas, et c'est toute la différence justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que certes on peut avoir ça en série télé aujourd'hui, et une belle série télé même proprement faite quoi. Mais t'as pas la magnificence absolue de la mise en scène de Michael Mann, en fait, quand je dis c'est une borne, c'est qu'en gros, il y a un avant et un après dans le film de braquage, par exemple. Tous les films de braquage, quasiment, à part peut-être des films comme Insaisissable de Louis Leterrier, en fait, se réclament de Hit. Tu regardes Triple Nine, tu regardes toutes les séries télé qui reprennent ce fond-là, en fait, c'est Hit. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui t'a montré, en fait, le modus operandi des braqueurs et le mode de vie en fait, tout simplement, parce qu'il y a d'un côté, donc c'est un grand polar, une grande fresque policière, beaucoup de personnages autour de Niro et Pacino, parce que c'était aussi l'événement à l'époque en fait, c'était les deux plus grands acteurs américains, c'était la façon dont c'était vendu, enfin vont se retrouver à l'écran. Et il faut rappeler que c'est un film qui a déçu à l'époque pas mal de gens quand c'est sorti. Enfin, c'est pas devenu un classique, c'était pas un classique instantané, on va dire, pour beaucoup de spectateurs, parce que justement, en fait, le marketing avait surenchéri sur cette logique-là. Et moi, je me rappelle, j'entendais des gens, moi j'étais sorti évidemment complètement conquis, et il y avait des gens qui me disaient, mais tu te rends compte, il n'y a pas un seul plan où ils sont ensemble dans la même image. Et justement, t'as pas besoin de ce plan carte postale. Il faut savoir, par exemple, que la scène de discussion entre De Niro et Pacino, qui, moi, je trouve, même 20 ans après, n'a pas perdu du tout de sa force d'écriture. Et quand ils expliquent, en fait, la façon dont ils vivent eux-mêmes leur propre démon, en fait, et ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qui se passerait si... parce qu'ils ont ces deux personnages qui sont les mêmes, comment dire...
Fondamentalement les mêmes, oui.
Les mêmes, mais c'est juste qu'ils ne sont pas du même côté de la pièce.
Ouais, voilà.
Et le truc, c'est qu'ils auraient pu être dans un autre contexte, ils auraient tout simplement pu être amis parce qu'ils se comprennent totalement. Ils ont exactement le même fonctionnement, si ce n'est qu'il y en a un qui est du bon côté de la loi et l'autre qui est du mauvais côté de la loi. Et toute cette conversation, c'est cette façon de dire... mais quoi qu'il arrive, même si j'ai de l'estime pour toi, même si tu es mon... comment dire... une personne que je comprends, si je te croise dans la rue, je te flingue. Quoi. Et c'est... Bon, déjà, c'est une scène qui est très forte. Elle est très forte ensuite parce qu'il y a De Niro et Pacino qui sont face à face. Quoi. C'est vrai que c'est quand même, ça fait quelque chose. Et par exemple, en fait, c'est une scène qui a été tournée avec deux caméras, enfin trois caméras. Un champ contre champ et un plan d'ensemble. Et en fait, Michael Mann lui-même s'est rendu compte au montage que le plan d'ensemble... était trop. C'est-à-dire qu'on voyait les deux acteurs dans le même plan, et il s'est dit, ça va distraire les spectateurs, ils vont se dire, tiens, c'est Pacino et De Niro, putain, tu te rends compte, c'est Le Pain et Raging Bull, c'est... Enfin, voilà. Et le problème, c'est que c'est le market qui avait trop appuyé là-dessus, du coup, à l'époque. Oui. Et je pense que c'est ce qui a créé
l'incompréhension, parfois.
L'incompréhension du public, et surtout, cette idée que t'as cette pièce centrale, ce morceau d'action complètement incroyable, en fait, qui est la fusillade, le braquage et la fusillade dans les rues de Los Angeles, comme on ne l'avait jamais vu, et qui a polarisé tout le monde. C'est-à-dire, ah ouais, alors là, ça, c'est super. Tout le monde disait, c'est super en sortant, mais le reste, c'est chiant. Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est un morceau, on n'avait pas l'habitude d'avoir un climax en milieu de film à l'époque.
Film, bien sûr.
Et aussi, l'autre truc, c'est que donc, tu sors pas. Enfin, un climax, qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu fais un climax en fin de film, bah, si t'as un climax de cette qualité-là, on va dire, les gens peuvent sortir avec un sentiment de satisfaction en se disant, bon, j'ai attendu jusque-là, mais j'ai au moins eu ça, donc tout va bien. Je me suis torturé 1h40 d'Avengers dans leur avion, mais au moins ils détruisent tout New York, donc tout va bien. Tu vois. Non, mais il y a un sentiment de ce que tu viens voir, en fait.
Oui.
Et le truc, c'est que du coup, les gens avaient l'impression, en fait, que, comment dire, on leur avait pas donné ce qu'ils étaient censés être venus voir, quoi. Mais tout simplement parce que c'est un film intimiste, très travaillé sur ce point, avec beaucoup, beaucoup d'écriture sur les personnages. Chaque personnage a sa fonction. Chaque personnage a son tempérament. C'est quand même un des rares films où tu te rappelles vraiment de Danny Trejo comme un personnage touchant, oui, et émouvant, alors que c'est quand même, moi j'adore Danny Trejo, mais c'est quand même un mec qui a l'habitude de jouer les malfaisants depuis 30 ans maintenant, quoi. Et tu t'en rappelles comme d'un vrai personnage. Oui. Pareil avec Tom Sizemore. Et ils ont tous un parcours incroyable. Il y a, je trouve, moi à l'époque, j'avais jamais vu ça, pareil dans la logique intimiste, le contre-coup du braquage et le contre-coup de tout ce qui s'est passé, c'est les femmes, en fait, qu'ils découvrent à la télévision et qui sont, et tout de suite, en fait, ça donne une ampleur à des personnages, en fait, qui sont complètement mis de côté à la base, qui sont relégués, qui servent presque de faire-valoir, on va dire. Le fait qu'il y ait cette attention, en fait. Moi, c'est un film qui aurait pu durer 4 heures, une heure de plus encore, et j'aurais pu manger, en fait, tout ça. Alors ça, c'est le pari sur le papier. Et puis, il y a le pari esthétique qui est incroyable, en fait, aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il a poussé le paroxysme. Michael Mann, en fait, c'est un cinéaste qui a des années 80. Il a commencé à la télé, il a écrit beaucoup de fiction, des séries comme Starsky Hutch, il a écrit des épisodes. Il a donné le la pour l'esthétique des années 80 avec Miami Vice et aussi avec Manhunter, en fait, ouais, le sixième sens. C'est des films qui auraient pu vieillir très très vite et qui probablement ont vieilli à un moment donné quand cette esthétique a commencé à être un peu ringardisée, on va dire, par d'autres personnes, pas par ces films, pas par ces films-là, mais par d'autres personnes, et qui ont tout de suite retrouvé leur place très rapidement et en même temps, lui, il l'a affiné. Les nuits bleutées. Moi, c'est Los Angeles. C'est à la fois Los Angeles tel que tu l'avais jamais vu au cinéma, et en même temps tel que si tu vas là-bas, en fait, tu le reconnais vraiment, quoi, dans les moindres coins. Donc, c'est un vrai film. C'est à la fois un vrai film choral et c'est un vrai film humain et un vrai film manifeste, encore une fois, sur une ville, quoi. Ce qui est un truc. Il l'a un peu refait dans Collateral.
Oui.
Ce qui était intéressant, c'était l'emploi du numérique, parce que ça débarquait à l'époque, c'était assez récent, quoi. Et ça lui a permis de pousser encore un peu plus loin le tournage de nuit, on va dire. Moi, je trouve que c'est un peu le 100 mètres collatéral après un 400 mètres. Donc, forcément, là, j'ai été un peu déçu en sortant de Collatéral. Et pour le coup, c'est un film qui a été beaucoup mieux reçu que Hit à l'époque. Oui.
Parce que s'il y avait eu le travail sur Hit entre-temps qui était
parce que c'était rentré dans les voilà parce que c'était voilà. Déjà devenu un entre guillemets un classique parce que c'est devenu un classique très rapidement derrière, en fait, voilà. Alors petite note perso, c'est mon film préféré de Michael Mann, pas forcément le meilleur film de Michael Mann si je fais une distinction, quoi, pour moi reste Insider Révélation, et qui malheureusement pour le coup est un peu tombé en désuétude, et qui est un projet formel encore plus dingue, je trouve, que Hit. Donc j'encourage quand même les gens à le voir. Si vous adorez Hit, normalement vous adorerez Révélation, qui est quand même beaucoup moins connu, et sur un tout autre sujet, évidemment, mais on fera peut-être un extra un jour là-dessus,
j'espère,
voilà. Et voilà, et là, alors le film ressort, en fait, dans une remasterisation de 4K. Alors c'est un film qui a été tourné donc en péloche, hein, précision inutile, mais bon, voilà. Et ce qui est intéressant avec les remasterisations 4K, j'avais déjà remarqué ça sur Die Hard en me tapant la version 4K, c'est que comme c'est des films péloches où le point est pas forcément toujours bien fait, où tu devais travailler avec les magasins pour l'image et tout ça, où t'avais pas l'étalonnage numérique encore, t'avais pas toutes ces choses-là, Bah tu vois en fait des plans flous, tu vois des trucs. Alors moi ça me gêne pas, j'ai pas de problème avec avec ce genre de défauts, on va dire, qui sont intrinsèques à la pellicule, hein,
en soi,
voilà,
la
fabrication du film, mais qu'on voit pas forcément parce qu'on manque de précision, nos copies jusque-là manquaient de précision ou de comment dire, on n'avait pas forcément les écrans, ou même au cinéma c'était pas aussi bien diffusé que voilà, que ça aurait pu l'être. Et là ça se voit vraiment maintenant si t'as une télé bien réglée. Comment dire, ton Blu-ray 4K qui est, moi je trouve formidable, hein, de très belle remasterisation. T'as comment dire, t'as des moments où tu te dis tiens ce plan est flou, tiens ce voilà. Moi je trouve ça rajoute un
certain charme.
Voilà, ça me dérange pas du tout, mais il faut le savoir. Donc c'est pas un défaut de la remasterisation, c'est le film tel qu'il est vraiment parce qu'on lui a donné de plus en plus de définitions quoi. Il y a deux bonus supplémentaires. T'as une masterclass de Michael Mann, je sais plus où, à Toronto, il me semble-t-il, avant la diffusion justement de cette version 4K, et une autre à Los Angeles avec cette fois De Niro, Dante Spinotti, le chef op, qui est un chef op incroyable, qui est le chef op de Michael Mann sur, il était sur Manhunter, il était sur Heat, il était sur, je crois, sur Révélation aussi, et il y a Pacino et De Niro qui ont bien vieilli, et il y a Christopher Nolan qui est censé être qui est présenté plus ou moins comme l'héritier de Michael Mann, ce qui est un peu on va dire
tangent.
Voilà, c'est pas tout à fait c'est pas forcément vrai, voilà. Mais même si en l'occurrence effectivement Michael Mann a beaucoup inspiré Nolan aussi,
on l'a vu la scène d'ouverture de Dark Knight qui est clairement, c'est du hit quoi, le braquage de la banque,
il va même jusqu'à chercher Van Sant, l'acteur qui joue Van Sant, William Fichtner, pour le mettre dans la scène, donc c'est volontairement,
c'est très référentiel,
ce n'est pas un pont volontaire, voilà. Et Nolan, bon, ce qui est un peu énervant, c'est que je te précise que j'aime bien Nolan de manière générale, mais il a cette tendance à dire oui, alors ce qui est bien avec Heat, c'est que c'est pas un vrai film de braquage, c'est pas un vrai polar, c'est pas un vrai film de genre, c'est un drame humain, etc., etc. Oui, c'est tout ça en même temps. On n'a pas besoin
de s'excuser du fait que c'est un polar.
Juste un putain de grand polar qui a infusé, je pense, tous les polars depuis. Et pas que les polars, la pop culture générale, ça se retrouve dans GTA V. Enfin, je veux dire, il y a des référencements directs à Michael Mann, mais c'est gros comme une maison, ça se voit que c'est des fans, et c'est bien parce que ça atterrit dans un autre média, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas Heat en Blu-ray, c'est une bonne édition.
C'est une bonne édition.
Et si vous n'avez pas vu, il faut que vous voyez tout de suite.
Oui, voilà. Oui. Voilà, tout de suite, maintenant. Maintenant, vous arrêtez d'écouter. Vous regardez Heat, si possible, donc cette réédition en Blu-ray qui est dispo chez 20th Century Fox. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci Seb, à la technique, merci au public et à l'antenne Paris pour l'accueil. Nociné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très bientôt.
Salut, c'est Mehdi Maizi. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.